Dieu notre Père, nous bénissons ton nom ce matin, en ce jour dominical. Nous t'élevons en dignité, nous réitérons notre foi en toi et nous proclamons, Seigneur, que tu es notre Dieu, auteur de notre foi, tu en es également le consommateur. Merci, Seigneur, nous t'exprimons notre reconnaissance pour notre présence en ce lieu ce matin, car tu as renouvelé le souffle de vie en chacun de nous et tu as permis ce culte d'adoration. Nous bénissons ton nom pour ta présence, tu es parmi nous, tu viens de nous déclarer saints, nous sommes tous et toutes agréables à tes yeux, enseigne-nous maintenant ta parole, libère ce lieu de tout esprit qui ne vient pas de toi, de tout esprit qui ne t'honore point. Esprit Saint de Dieu, sois le maître de tout ce que nous sommes en train de faire. Enseigne-nous ta parole au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que la paix de Dieu soit sur chacun de vous. Alléluia. Amen. Nous voulons saluer également une personnalité de notre Église. Nous avons ici le président de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. S'il est là, le professeur René Nyalega. Merci. Est-ce qu'il y a un étudiant de l'UMC ici? Les étudiants de l'UMC, levez-vous. Ah. Donc, vous le connaissez bien. Toi, tu étais avec moi, non? C'est ça? Au CSM de Kumasi. Ok. Que Dieu te bénisse. Ce matin, je voudrais remercier la révérende Achi, Madame Trokosu, qui a permis que je puisse partager la parole avec vous et remercier le Seigneur pour notre présence. Ce matin, en réalité, c'est trois textes qui sont programmés, comme d'habitude. Le premier est tiré, vous allez lire à la maison, dans la prophétie d'Ésaïe, chapitre 50, du 4e verset au 11e, Ésaïe 50, 4 à 11. Le deuxième, c'est le texte qui a été lu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, versets 6 à 10. Et enfin, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22, versets 39 à 46. Mais pour la circonstance, nous avons lu un seul texte tiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, versets 6 à 10. Nous savons bien que c'est le livre ou l'Épître de cette année 2022 au niveau de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Au verset 6, il est écrit, Hébreux 5, verset 6, « Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Amen. Et le thème qui nous est proposé ce matin, Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur déclaré. Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur déclaré. Et la question que nous nous sommes posées, que nous allons résoudre ce matin, est la suivante. Pourquoi Jésus-Christ est-il déclaré souverain sacrificateur? Ou bien sacrificateur éternel? Pourquoi? Et nous allons répondre à cette question, à cette interrogation, conformément au contexte de l'Épître aux Hébreux. Pourquoi l'auteur insiste-t-il en présentant Jésus-Christ comme il dit ici, « Tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Ce qu'il faut savoir, bien-aimés frères et sœurs, est que l'épître aux Hébreux se présente comme un serment, ou comme une homélie, c'est-à-dire une parole d'exhortation, ou des paroles d'exhortation que nous trouvons dans cet épître. Le contenu du message serait d'encourager les Hébreux à ne pas abandonner leur foi en Jésus-Christ et retourner au judaïsme. C'est ça l'objet des sermons, des exhortations adressées aux Hébreux pour qu'ils puissent rester dans le christianisme, qu'ils puissent confesser Jésus-Christ comme étant Dieu, le Fils de Dieu, le Messie attendu, et c'était un défi à relever pour les auteurs du premier siècle. Parce que nous savons, les Hébreux, c'est les fils d'Israël qui n'acceptaient pas Jésus-Christ. Lorsque nous lisons dans l'Épître, dans les Actes des Apôtres, c'était difficile. On ne pouvait même pas prononcer ce nom. Mais dans ce tourment, cette difficulté, il y a eu quand même des frères et sœurs qui avaient accepté Jésus-Christ comme Messie, et que ici l'auteur de cette épître écrit pour ces Hébreux-là, afin qu'ils n'abandonnent pas leur foi et retournent au judaïsme. Donc pour nous aussi, c'est la même chose. Ça nous concerne. Parce que le défi pour nous, c'est de ne pas abandonner la foi et de retourner dans les fétiches. Aller adorer les dieux, les bois sacrés et autres. Donc c'est là, frères et sœurs, dans ce contexte que nous pouvons comprendre ou chercher à savoir pourquoi ici il présente Jésus-Christ, où Jésus-Christ est déclaré comme souverain sacrificateur. Les Juifs ou les Hébreux avaient une connaissance parfaite de Dieu. Alléluia! Ils connaissaient le Dieu de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y avait, on peut dire, trois offices ou bien trois ministères qui étaient exercés. Il y avait l'office ou le ministère prophétique, royal et sacerdotal. Il y avait trois. Où tu étais roi, prophète ou prêtre sacrificateur. Donc il y avait les trois. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, on trouve ces trois ministères. Mais Jésus-Christ ici, il présente Jésus-Christ aux Hébreux et même à nous comme étant le grand ou le souverain sacrificateur. Ici, on nous dit Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, déclaré. Mais Jésus-Christ est déclaré comme souverain sacrificateur parce qu'en lui, il a les trois offices. Jésus exerce l'office royal, il est sacrificateur et il est prophète, en lui seul. Donc c'est lui le souverain, il est au-dessus des rois, il est au-dessus des prophètes, il est au-dessus des sacrificateurs qui étaient là. Parce que lui, il est le souverain et on nous dit pour toujours. Donc les Hébreux ne devraient pas abandonner leur foi en Jésus-Christ sous prétexte de retourner là-bas où on parlait de Dieu. Mais ils devraient garder leur foi, avoir cette capacité de rester et de demeurer avec le Seigneur, de confesser Jésus-Christ. Et dans le texte que nous venons de lire, pour répondre à la question « Pourquoi Jésus-Christ est-il déclaré souverain sacrificateur ?» il y a trois points. Le premier point, c'est son humanité. son humanité. Lorsque nous lisons le verset 7, on nous dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a pris. Donc nous avons son humanité au verset 7, son obéissance au verset 8, et enfin, l'auteur du salut. Il est l'auteur du salut au verset 9. Le premier point, son humanité. Pour prouver que Jésus-Christ est au-dessus de nous, il est au-dessus de tous les hommes. C'est Jésus qui est venu. L'humanité de Christ, c'est sa naissance, c'est sa vie, ce sont ses enseignements, les miracles, sa passion et sa mort, ainsi que sa résurrection. Seul Jésus a traversé toutes ces étapes. Il est venu comme Dieu. Le Seigneur Jésus avait les deux natures. Il était en même temps Dieu et homme. 100% Dieu, nature divine, 100% homme, nature humaine. Donc, Jésus a vécu avec nous. Jésus a souffert pour toi et pour moi. Alléluia. C'est ça au verset 7. L'auteur dit aux Hébreux, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, de son humanité, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Nous connaissons bien l'histoire du salut. Normalement, on va entrer dans le temps de la passion à partir du mois de mars, avec les temps de jeûne, vivre un peu cette souffrance de Christ depuis le jardin de Gethsémané jusqu'à Golgotha, merci. Là où il a été crucifié. Mais même sur la croix, Jésus a intercédé pour toi et pour moi. Ce n'est que lui. Donc il montre que ce Jésus-là est au-dessus de vos sacrificateurs, de vos prophètes. Le deuxième point, son obéissance. Jésus était Dieu. Cette parole faite chair, cette parole qui est descendue du ciel, qui habitait avec nous. Mais Jésus est resté obéissant vis-à-vis de son Père. Au verset 8, on nous dit, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, il a obéi. Parce que Dieu avait tracé un plan, une destinée pour Jésus. Il est venu pour nous racheter nos péchés et triompher de la mort. Mais Jésus a obéi. On va se souvenir lorsque nous allons apprendre vivre la passion. À un certain moment, il était humain. Mais Jésus a dit que ta volonté soit faite. C'est la volonté de Dieu, l'obéissance. Parce que nous, tels que nous sommes là, nous aussi nous sommes semblables aux Hébreux. Nous étions loin dans les fétiches par nos parents, mais nous sommes par la grâce de Dieu. Alléluia, grâce de Dieu, faveur imméritée de Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé, qui m'a appelé. Si nous sommes rassemblés ici ce matin, c'est par pure grâce. Là où nous sommes, c'est une révélation. Le Dieu que nous adorons est apparu à chacun de nous. Dis amen. Dieu est apparu à toi. Dieu t'est apparu. Il est venu vers toi. Dieu a fait mouvement vers toi. Parce que le christianisme, c'est une révélation. On ne va pas à la recherche de Dieu, mais c'est Dieu qui vient à notre recherche, c'est ça qu'il faut savoir. C'est Dieu qui est venu vers moi. C'est Dieu qui m'a appelé. Je suis l'élu de Dieu. Je suis précieux aux yeux de Dieu. Les autres n'ont pas bénéficié de cette grâce. Parce qu'en réalité, le christianisme, ce n'est pas une religion. C'est une révélation. Dieu se révèle. Il s'est révélé à toi, à moi, à chacun de nous. Et nous sommes rassemblés ici parce qu'il est l'auteur de notre foi. Donc c'est une bénédiction. On cherche des bénédictions, mais il faut d'abord saisir celle-ci. Cet appel. Dieu est venu vers toi. La parole de Dieu. Quand on prêche, quand on évangélise, mais la puissance, c'est Dieu. Plusieurs personnes reçoivent la parole, écoutent la parole, mais certaines personnes restent insensibles, mais d'autres acceptent parce que c'est une révélation de Dieu. Donc nous sommes des élus de Dieu. Et ici, il parle de l'obéissance. Mais si je suis élu de Dieu, ça s'extériorise par l'obéissance. Alléluia. La foi s'extériorise par l'obéissance. Donc Christ, qui était fils de Dieu, privilégié de Dieu, vase d'honneur suprême de Dieu, obéissant. Parce que si Christ n'était pas obéissant, il ne devrait pas être ici aujourd'hui. Mais c'est par l'obéissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous sommes là rassemblés. Tu es élu, appelé de Dieu, sois obéissant, tu vas entrer dans l'accomplissement de ta destinée. Parce que Jésus est entré dans l'accomplissement de sa destinée, à relever le défi, celui de mourir sur la croix, et 3 jours après, il est ressuscité de la mort, il a vaincu la mort. Et ce jour, c'est dimanche, le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection du Christ, le jour où Jésus a vaincu la mort. Donc, c'est un jour. Si nous sommes des enfants de Dieu authentiques, on ne doit pas rester à la maison. Dis amen. C'est ça que nous, les chrétiens, on ne se retrouve pas le sabbat, le samedi, mais on se retrouve les dimanches par rapport à la résurrection. À la résurrection. Donc, il est resté obéissant. Nous, notre obéissance, c'est la parole de Dieu. Dieu me fait grâce, il te fait grâce de recevoir cette parole. Mais quand on reçoit la parole de Dieu, Dieu attend de nous l'obéissance. Je dois mettre celle-ci en pratique. Je dois vivre selon la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a des promesses. Mais ces promesses doivent se réaliser dans ta vie. Si tu es réellement enfant de Dieu, comme Christ est venu. C'est en cela qu'il est souverain sacrificateur déclaré par rapport à cette mission, la mort et la résurrection. Enfin, on nous dit au verset 9, il est écrit et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Hein, on dit bien, avec précision, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc l'obéissance est là. Ce n'est pas seulement proclamer le nom de Christ, réclamer la position de chrétien, mais il exige l'obéissance. Donc c'est ça l'objet des sermons de l'homélie adressés aux Hébreux, afin de rester, de conserver la foi. Les Hébreux doivent conserver la foi, les retenir dans le christianisme comme disciples de Christ et éviter qu'ils retournent au judaïsme. Donc nous également, ça nous concerne. On ne doit plus retourner là où on était hier, dans les boîtes de nuit et autres. Mais on doit rester enfant de Dieu. C'est le défi à relever. On dit, il est l'auteur, on commence par dire de notre salut. Et Jésus lui-même disait quoi? Quand il était sur terre dans son humanité, de chercher d'abord le royaume. Alléluia! Ce qui est spirituel d'abord, avant de voir le matériel, le financier, avant de lui présenter nos besoins. Ce qui est plus important, c'est d'abord le spirituel. Quelle est ma relation avec Christ, avec Dieu, avant de demander, avant de lui présenter mes requêtes. Parce que tel que là où nous sommes assis, vous êtes assis, je suis debout. Mais chacun de nous a un besoin, vrai ou faux? Chacun de nous vit avec un sentiment de manque. Quelque chose manque. Ce sentiment-là est en nous. Mais le sentiment de manque doit être comblé par notre relation véritable et sincère avec Christ. Attache-toi au Seigneur. Il est auteur de la foi, mais il est aussi, dans l'hébreu, c'est un texte qui va arriver, il est aussi le consommateur de la foi. Amen. Jésus, pour nous, il est auteur. Hein? C'est lui qui crée la foi, mais c'est lui aussi qui consomme la foi. Donc notre foi, avant de consommer quelque chose, mais cette chose doit être agréable. Alléluia! Est-ce que tu peux consommer un fruit désagréable ou infect? Non! Le texte va arriver. Oui, il est dit, il est le consommateur. Mais si Christ doit consommer ta foi, celle-ci doit être, comment? Agréable. Mais si ta foi n'est pas agréable, ça veut dire tout simplement, bien-aimés frères et sœurs, l'exaucement de nos besoins, vœux, requêtes, prières, l'exaucement dépend de notre foi. Cette relation, ma foi doit être agréable, doit attirer les faveurs de Dieu, le regard favorable de Dieu. C'est ça la foi, une foi obéissante. Et Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. Cherche, bien-aimés frères et sœurs, à être prospère spirituellement et tu le seras matériellement, financièrement et autres. Alléluia. C'est ça la clé de la réussite, de l'obéissance. Jésus-Christ, notre souverain, sacrificateur déclaré par rapport à ce qu'il a fait. Même pour nous, on ne va pas aller se faire crucifier quelque part. Mais ce qu'on peut faire, c'est l'obéissance. C'est quoi l'obéissance qui va nous ouvrir les portes du salut? Le salut éternel, mais Dieu ne peut pas t'accorder une longue vie et tu vas vivre dans la souffrance. Ça, c'est impossible. Quand tu as une foi obéissante, une foi agissante, une foi en mouvement, une foi qui n'est pas morte, qui qui n'est pas arrêtée, parce que Dieu est vivante. Une fois vivante, Dieu va t'ouvrir les clés, te donner les clés, les portes qui sont fermées vont s'ouvrir, parce qu'il est Dieu, il est au-dessus de tout autre Dieu. Que le Seigneur lui-même, bien-aimés frères et sœurs, vous bénisse abondamment. Soyez véritablement des enfants de Dieu. Les messages que nous recevons jour après jour doivent arroser notre foi, faire croître notre foi. On ne doit pas rester là, bébé spirituel, mais on doit croître. Mais c'est l'obéissance. Vaut mieux que les sacrifices. On doit être obéissant à Dieu. Et le Seigneur nous comblera de toutes sortes de bénédictions au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.